En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'armée romaine a conquis en 5 siècles un immense empire et elle l'a conservé pendant les 5 siècles suivants. Un tel succès est probablement sans exemple dans l'histoire de l'humanité, phénomène qui amène une question: comment expliquer cette efficacité? Plusieurs réponses viennent à l'esprit: l'organisation en unité, le commandement, le recrutement, l'armement, la tactique, la stratégie, etc. Pourtant, aucun Romain n'aurait accepté aucune de ces explications. Pour le commandant d'armée comme pour le simple soldat, il vous l'aurait dit, nous sommes victorieux parce que nous sommes pieux. La piété appartenait aux valeurs fondamentales de ce peuple et elle occupait une place particulièrement importante dans le domaine de la guerre. La religion et la guerre étaient intimement liées. Pour le montrer, il m'a paru souhaitable de diviser la matière en 3 parties, avant, pendant et après la bataille, ce qu'a fait ce matin M. de Polignac. Avant la bataille, les soldats se comportaient comme tous leurs contemporains. Ils adoraient les mêmes dieux, avec quelques différences, et ils suivaient un calendrier commun, mais certaines célébrations leur étaient propres. Un clergé spécifique était attaché aux armées, il formait ce que nous pourrions appeler leurs aumôniers. Enfin, le processus de déclenchement d'une guerre présentait des caractéristiques qui peuvent paraître surprenantes à un esprit du XXIe siècle. Je vais reprendre d'abord, donc successivement, ces 4 points qui constituent l'avant-bataille des Romains. Tout s'explique par leur psychologie collective. Pour la comprendre, il ne sera pas inutile de revenir ici de manière très brève sur un schéma de mentalité collective qui a été décrit dans notre précédent colloque l'an dernier. Pour les Romains, la guerre était un mal, alors ce qui peut paraître évidemment un paradoxe extraordinaire, sachant quand on connaît leur histoire, parce qu'elle causait des morts et des dégâts. Mais une fois déclenchée, elle ne devait et ne pouvait s'arrêter qu'à la victoire. La victoire était accordée au peuple romain, précisément parce qu'il était le peuple le plus pieux du monde. Au début de son histoire, les dieux la lui donnaient directement. Puis, après la guerre contre Hannibal, ils ont désigné le Sénat pour servir d'intermédiaire. Enfin, dès l'arrivée au pouvoir d'Octave Auguste, ce fut l'empereur qui a joué ce rôle. La victoire permettait le retour de la paix, qui était un bien, car elle s'accompagnait de la prospérité, felicitas en latin, et comme l'a dit M. Romer ce matin, je crois en hébreu, c'était shalom, qui avait ce double sens. La victoire, la paix et la prospérité, j'ai écrit ces mots avec des majuscules, étaient des divinités. Donc les soldats pratiquaient non pas une, mais plusieurs religions qui se superposaient, et qui n'entraient pas en conflit les unes avec les autres. Et en premier lieu, ils honoraient les divinités de la province dans laquelle ils étaient en garnison. On dira que c'était des dieux de vaincus, bien sûr, mais un mortel n'a jamais intérêt à négliger les dieux, quels qu'ils soient. Les dieux romains traditionnels ont évidemment suscité des dévotions dans les camps, mais les soldats préféraient ceux qui leur assuraient une protection particulière. Il n'est pas peu surprenant de voir que tous les dieux romains, ou presque, avaient au moins 2 fonctions majeures, le plus souvent sans lien entre elles. Par exemple, le principal des dieux de ce panthéon, Jupiter, père des dieux et des hommes, était le maître du panthéon et aussi le maître du ciel d'orage. Il avait plusieurs visages et il était honoré par différents titres. Jupiter Invictus, invaincu, Stator, qui arrête les armées des ennemis, Depulsor, qui repousse les adversaires, Valens, courageux, et Conservator, qui protège la patrie. Alors Mars protégeait les armes et les sillons, Vénus, comme l'Aphrodite dont on vous a parlé ce matin, n'était pas seulement la déesse des galipettes, elle donnait aussi la victoire aux chefs d'armée. Et Minerve protégeait les comptables et les soldats. Comme leurs contemporains, les militaires honoraient des abstractions divinisées et des génies. On trouve ainsi dans leur dévotion au premier chef la victoire, encore avec une majuscule, la fortune, Bonus et Ventus, qui était l'heureux dénouement de la guerre, également l'honneur et la virtus, le virtus qui désigne le service de l'État, ce qui caractérise l'homme, vir au sens viril du terme, et le service de l'État, donc, et le sens de courage n'est que dérivé. Il y a aussi la fides, très importante pour nous, car elle était le comportement à la fois moral et juste au combat. Elle correspondait à ce que les modernes appellent le jus in bello, une expression qui était inconnue des anciens. Et puis il y avait des génies qui veillaient sur la légion, sur le camp. Donc la légion avait son génie, le camp son génie, le prétoire, c'est-à-dire la tente du général, où ça demeure en pierre, la centurie, et il y avait même un génie de la bureaucratie. Le culte impérial a donné matière à des étonnements en réalité non fondés, et là, dans mes premiers écrits, j'ai quelque peu écrit des sottises. Des épigraphistes ont constaté, j'en faisais partie, que les soldats ont fait graver peu de dédicaces en hommage aux empereurs. Était-ce par dédain? Je le croyais, non. L'examen d'un papyrus de Doura Europos, un petit camp de Syrie, montre que les légionnaires participaient très régulièrement à des cérémonies du culte impérial. Ils étaient professionnellement abreuvés de cette religion. À l'opposé, je pense que les cultes orientaux ont rencontré auprès des soldats beaucoup moins de succès qu'on ne l'a dit. J'ai étudié le cas d'Isis, la déesse égyptienne Isis, et j'ai constaté que pratiquement aucun soldat ne l'avait jamais honoré. Et ce qui est plus intéressant, c'est le cas du dieu Mithra. Mithra, à l'heure actuelle, on nous dit que si le monde n'avait pas été chrétien, il aurait été mithraïque. Personnellement, je n'en suis pas persuadé, parce que j'ai examiné quelques sanctuaires, quelques temples de Mithra, ce qu'on appelle un mithraeum en latin, Mithraea. Or, un mithraeum, c'est une petite salle avec deux bancs dans laquelle vous mettez une vingtaine de personnes. Ce n'est pas une cathédrale gothique. Donc, par exemple, j'ai particulièrement étudié le camp de Lambèze en Numidie, en Algérie actuelle. Vous avez un camp pour 5000 soldats, il y a un mithraeum à côté. Donc sur les 5000 soldats, il y en avait seulement 20 ou 30 qui pratiquaient le culte de ce dieu. On peut évidemment admettre qu'ils se relayaient les uns les autres, mais enfin, ça ne devait pas faire grand-chose au total. Il y a mieux. Ce que nous savons de l'année militaire est connu en partie pour l'époque républicaine et en partie pour l'Empire. Des cultes très divers étaient pratiqués suivant un calendrier très chargé. Il faudrait d'ailleurs parler de plusieurs calendriers, car les civils et les militaires, les hommes de la République et ceux de l'Empire, les hommes du sud de l'Italie et ceux du Nord, etc., n'attachaient pas la même importance à chaque dieu. Si l'on en croit le poète Ovide, l'année civile commençait jadis au 1er mars, mois consacré au dieu de ce nom. Ce jour-là également s'ouvrait la saison de la guerre. Le même poète dit que, par la suite, le début de l'année fut avancé au 1er janvier, ce qui était toujours le cas au début de l'Empire. Deux grands savants, Jean Baillet et Henri Le Boniek, avaient mis en évidence l'existence d'un rythme sacral de la guerre à Rome. Le rythme sacral, c'est leur expression à l'un et à l'autre. Ce n'est évidemment pas faux, mais on constate que ce modèle religieux répond aux impératifs de la logistique, en particulier des fournitures de blé et donc du climat. La religion suivait la nature, ce qui n'a rien de très surprenant. Les soldats donc se rassemblaient puis se préparaient à partir du 1er mars jusqu'au début du mois de juillet, et les opérations ne commençaient normalement qu'au moment où le blé était arrivé à maturité. Alors évidemment, il y a des exemples de guerre à d'autres moments de l'année. Par exemple, Vercingétorix a commencé son soulèvement en janvier, et César est obligé de réagir tout de suite, il n'a pas attendu plus tard, mais Vercingétorix était un barbare et c'était un homme mal élevé, il a fait des choses qui ne se faisaient pas. Au total, le calendrier militaire était chargé. À partir d'un certain moment, l'année s'ouvrit le 1er janvier, comme je l'ai dit. Or, janvier est consacré à Janus, dieu aux multiples fonctions lui aussi, et qui intervenait dans le cycle militaire, j'y reviendrai. Le premier jour de ce mois, les soldats renouvelaient leur serment de fidélité à l'empereur. Une semaine après, le 7 janvier, la solde était versée et ceux qui étaient arrivés au bout de leur temps de service étaient libérés. Le 27 février, les Equiria étaient marqués par une course de chars en l'honneur de Mars. Puis une fête appelée le Quinquatrus, célébrée en l'honneur de Minerve, tombait le 19 mars et elle était renouvelée le 13 juin. Le 1er mars, la saison de la guerre était ouverte par la danse des Saliens, un groupe de prêtres qui formait une sodalité et qui conservait, qui protégeait un bouclier sacré donné par Mars aux Romains. Le même jour, on honorait Mars Victor, victorieux. Le 23 mars, l'armée procédait au Tubi Lustrium, la purification des trompettes, cérémonie renouvelée le 23 mai. Pourquoi une purification spécifique aux trompettes et pourquoi ce jour-là, je n'en ai pas la moindre idée. Le 10 mai, on procédait au Rosalia, au Rosalia Signorum, les fêtes des enseignes, qui étaient renouvelées le 31 mai. Le 12 mai revenait encore le tour de Mars, en l'honneur de qui étaient célébrés des Jeux du Cirque. Un clergé était préposé à ces cérémonies et à d'autres rites. L'empereur, les commandants d'armée et d'unité les présidaient. Sur la colonne Trajan à Rome, on voit le chef de l'État, c'est-à-dire Trajan à l'époque, qui était en même temps chef de l'armée, se transformer en prêtre. À un niveau inférieur, des soldats étaient attachés à quelques cultes. Nous connaissons le prêtre de la Légion, la ruspice, le victimaire et le gardien des poulets sacrés. Tardivement, pas avant la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, des prêtres chrétiens remplacèrent petit à petit les prêtres polythéistes. Plus étonnant, le plus paradoxal que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que chez ces guerriers qu'étaient les Romains, des règles juridiques et religieuses, intimement liées les unes aux autres, veillaient à empêcher les offensives et à retarder le plus possible l'explosion pour permettre à un règlement pacifique d'intervenir. Il était impératif que la guerre fût juste et pieuse. Bellum iustum piumque. C'était ce que les modernes appellent le jus ad bellum, expression également inconnue des anciens. Certes, je ne suis pas naïf, et il ne faut pas l'être évidemment, chaque fois qu'il paraissait rentable aux Romains d'agresser un peuple quelconque, ils trouvaient des arrangements avec le diable ou avec les dieux, comme vous voulez. Donc, sous la République, surtout au temps des grandes conquêtes, une série d'étapes précédait le début du conflit. D'abord, un ambassadeur allait dire à l'ennemi potentiel qu'il avait commis une faute et qu'il devait la réparer. « Vous avez tué 10 de nos marchands, vous avez brûlé 3 de nos vaisseaux, vous avez occupé tel village qui nous appartient, il faut réparer. » Ce messager était un prêtre spécialisé dans cette fonction, qu'on appelle en latin le pater patratus, et sa mission s'appelait la clarigatio. Si l'ennemi ne répondait pas, ce qui était l'équivalent d'un refus pour les Romains, ou s'il répondait discourtoisement, un autre prêtre, le fécial, qui était spécialisé dans le droit de la guerre, lançait un javelot depuis une colonne qui se trouvait devant le temple de la déesse Bellone. Bellone, c'est une déesse dont le nom appartient à la même famille que le mot bellum, guerre. C'était là la déclaration de guerre proprement dite. Il y avait encore 3 étapes à suivre. D'abord, les Saliens effectuaient une nouvelle danse. Ensuite, l'empereur ouvrait les portes du temple de Janus. Je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui posait un problème quand les gonds étaient rouillés. C'est arrivé à Auguste, ce qui prouvait justement qu'il avait obtenu une paix très très longue. Et il les fermait dès que les opérations étaient terminées. Le poète Ovide, que j'ai mentionné tout à l'heure, donne une explication de ce rite. Il fait comme si le temple donnait une image de Rome, de la ville de Rome. Et il dit qu'on ouvrait les portes pour permettre au peuple de revenir et qu'on les fermait pour empêcher la paix de partir. Il n'y a rien que de très pacifique dans ce schéma. Enfin, le général demandait leur avis aux dieux par un des 3 moyens possibles. Il observait le vol des oiseaux, ce qui était la prise d'auspice. Donc, il dessinait un temple, un templum, ce qu'on appelle un templum, c'est-à-dire un espace dans le ciel, avec son bâton, qu'on appelle le litus. Et puis, si les oiseaux entraient par la droite, c'était bon, un heureux présage, donc la guerre pouvait avoir lieu. S'ils entraient par la gauche, le présage était sinistre, et il n'y avait pas de guerre, la guerre était repoussée. Ou bien il examinait les entrailles des victimes, la moindre anomalie était interprétée comme une mise en garde, un avertissement, ou encore il observait l'appétit des poulets sacrés. S'il n'avait pas faim, c'était le signe que les dieux ne voulaient pas de la guerre. Un amiral romain, qui s'appelait Claudius Pulcher, qui tenait à sa bataille, avait fait jeter à l'eau ces petites bêtes qui ne voulaient pas manger, peut-être à cause du mal de mer, ça c'est une hypothèse personnelle. Il déclara que puisqu'elles n'avaient pas faim, elles avaient peut-être soif. Il fut vaincu. Malgré tous les freins possibles, la guerre finissait par arriver. Normalement, elle durait du début de juillet à la mi-septembre. Curieusement, la religion se faisait moins pressante à partir de ce moment-là, mais elle n'était pas absente des opérations, loin de là. L'armée en campagne était protégée par un panthéon en quelque sorte resserré, avec des dieux à la fois moins nombreux et plus spécialisés. La triade capitoline, la sainte trinité des Romains, Jupiter, Junon et Minerve, qui étaient Polyades, les protégeaient, et aussi Mars, Vénus et Apollon. En cas d'opération navale, Neptune était sollicité, sa fête tombait d'ailleurs dans cette période le 23 juillet. Ce panthéon était honoré par des rites plus simples et plus répétitifs, surtout par des sacrifices et aussi par la dévotio. Ce qu'on appelle la dévotio est un rite très particulier. Quand l'armée se trouvait en grand danger, le général se sacrifiait. Ou plutôt, ce qui était très astucieux, il faisait exécuter le sacrifice par les ennemis pour leur propre échec. C'est-à-dire concrètement, il se lançait à cheval au milieu d'eux, il le tuait ailleurs. Ce rite n'est attesté qu'à très haute époque et dans très peu de cas. Sous l'Empire, on ne trouve que quelques sacrifices un petit peu volontaires de simples soldats, suivant le même schéma. Il y a eu, en quelque sorte, une démocratisation de la dévotion. Pour le reste, les prières et les sacrifices ordinaires suffisaient. Les dieux pouvaient intervenir de manière très directe, par exemple dans le célèbre miracle de la pluie, qui a été représenté sur la colonne aurélienne à Rome. Alors que l'armée manquait d'eau parce que les ennemis avaient empoisonné les puits, des prières apportèrent le salut sous la forme de précipitations aussi abondantes qu'inattendues. Des soldats polythéistes affirmèrent que leurs nombreux dieux avaient fait ce miracle. Les soldats chrétiens en revendiquèrent le mérite pour leur dieu unique. Dans leur conception du combat, les Romains païens avaient introduit la guerre en 3D, en trois dimensions. Ils pensaient que, pendant que les adversaires s'affrontaient au sol, et alors c'est assez différent de ce que vous avez entendu ce matin, les dieux s'affrontaient dans le ciel, les uns pour eux, les autres pour leurs ennemis. Virgile a donné un récit extraordinaire de ce genre d'affrontement dans l'Énéide. Il raconte que le dieu Vulcain a fabriqué, à l'intention du héros troyen Énée, un bouclier de bronze sur lequel il a gravé en image toute l'histoire de Rome, une histoire à venir à ce moment. Il fallait au moins un dieu pour raconter sur une aussi petite surface un récit aussi long. La narration converge vers la bataille navale d'Axium, qui, en 31 avant Jésus-Christ, a vu la victoire d'Octave, futur Auguste, et l'avènement de la monarchie impériale. D'un côté, on voit la flotte d'Octave, secondée par Agrippa et les dieux de l'Occident. De l'autre, les vaisseaux d'Antoine et de Cléopâtre, qui sont appuyés par les dieux de l'Orient. Je cite Virgile, « César Auguste mène le combat, accompagné par les sénateurs et le peuple, avec les pénates et les grands dieux. L'étoile paternelle, c'est-à-dire la comète assimilée à l'âme de César, l'étoile paternelle apparaît sur sa tête. Des monstres divins de tout genre, ainsi que l'aboyeur Anubis, lancent leurs traits vers Neptune, Vénus et Minerve. En plein combat, Mars se déchaîne, aidé par les tristes furies, avec un F majuscule, qui descendent du ciel, et par la discorde, avec un D majuscule, qui s'avance, heureuse de sa robe déchirée. Bélone, tenant son fouet ensanglanté, les suit. L'Apollon d'Axium, voyant de haut ces événements, tendait son arc. » Fin de citation. La religion reprenait toute sa place après la bataille. Il fallait remercier les dieux, enterrer les morts et terminer la guerre. La victoire assurée, les Romains chantaient un hymne d'action de grâce aux dieux, un péan, un tédéum païen, et ils offraient de nouveaux sacrifices. Ils érigeaient un trophée. Alors, le trophée des Romains est un peu différent de celui des Grecs, et différent de celui des Grecs dont on vous a parlé ce matin, puisqu'il honorait une triade, une autre triade, principalement Mars, Vénus et la Fortune, qui est la Tuquée, dont on vous a parlé ce matin, très importante pour l'époque hellénistique. Après les dieux, les morts, les Romains croyaient que les défunts avaient une forme de survie très diminuée dans la tombe, que seuls des sacrifices atténuaient leur malheur. Et ils n'ont que rarement envisagé une justice distributive, comme ont fait les Juifs et les chrétiens. Le cas des soldats morts au combat a laissé peu de traces. Il ne semble pas qu'en règle normale, des monuments particuliers aient été érigés à leur intention. Il paraît assuré également qu'ils ont été parfois inhumés et pas incinérés et dans des tombes collectives. Néanmoins, ces rites étaient obligatoires. Les âmes des défunts devaient pouvoir rejoindre leurs ancêtres et entrer dans le peuple des morts, ces fantômes qu'on appelait les dieumanes. Alors on a retrouvé le bûcher de la bataille de Trasimène, et on sait par Tacite que les rites qui ont eu lieu après le désastre du Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. Il n'y a eu qu'une inhumation collective sous de la terre. Après la saison de la guerre, les troupes prenaient le chemin du retour vers la mi-septembre. La fin de l'année militaire avait lieu dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Le 15, elle était marquée par la cérémonie de l'Equus October, le cheval d'octobre. Une course de chars était organisée en l'honneur de Mars, à l'issue de laquelle le cheval de droite de l'attelage vainqueur était sacrifié. Si cette campagne correspondait avec la fin de la guerre, l'empereur fermait alors la porte du temple de Janus. Il restait à purifier l'armée, et la déesse Victoire était finalement honorée par une série de fêtes jusqu'au 1er novembre. À plus long terme, le général pouvait recevoir des récompenses qui étaient, suivant leur importance, des supplications, une ovation ou un triomphe. Le triomphe était à la fois une procession religieuse et un défilé militaire. Le général, revêtu des ornements de Jupiter, était monté sur un char. Un petit esclave l'accompagnait et, pour éviter la jalousie du dieu, il lui répétait qu'il n'était qu'un homme. Derrière lui suivaient les soldats qui, eux aussi, cherchaient à détourner la colère divine de leur chef. Dans ce but, ils portaient des panneaux pour se moquer de lui. C'est ainsi que César fut appelé, je cite, « l'homme de toutes les femmes, la femme de tous les hommes », ce qui est injuste, ou encore « le séducteur chauve », ce qui est plus exact. Le butin était présenté sur des brancards, les exploits figuraient sur des tableaux peints. Les captifs, le peuple romain et le Sénat accompagnaient ce cortège jusqu'au temple de Jupiter pour un dernier sacrifice. Les chefs ennemis étaient mis à mort après la cérémonie, ce qui arriva vers Vercingétorix. Un sujet a été absent de ce tableau, c'est la guerre de religion. C'est que les Romains n'ont même jamais envisagé ce genre de conflit. Ils croyaient que tous les hommes adoraient les mêmes dieux sous des noms différents. C'est le phénomène que Tacite a appelé l'interprétatio romana. Les Africains appelaient Baal-Amon leur Saturne et les Gaulois donnaient à Jupiter le nom de Taranis. Ils n'ont donc jamais envisagé d'imposer leurs croyances. Pour eux, une guerre de religion n'aurait pas eu de sens. Au cours du IIIe siècle, et plus encore à la fin du IVe et au début du Ve, les désastres s'accumulèrent. Les polythéistes accusèrent les chrétiens de cette situation. Ils leur reprochaient de ne pas respecter les dieux qui, en conséquence, s'étaient détournés de Rome. Le plus étonnant, c'est que les chrétiens éprouvèrent le besoin de se justifier. Le double sac de Rome en 410 fut l'occasion de critiques particulièrement virulentes. C'est à ces reproches que répondit la cité de Dieu. Mais saint Augustin n'a plus rien à voir avec l'armée romaine. Il ouvre une autre période de l'histoire du monde. Mmh.